t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Que de mourir les grandes oreilles, fraîchit mourir qu'elles ich normal, c'est l'hiver, l'hiver s'installe tout doucettement. J'espère que tout va bien, cher Crozier Horolup, le fondateur de Radio Judaïka. Ce matin, j'ai fait une place, comme le chante avec sa voix sexy et charmeuse Julien Clerc, une place à l'élégance, à une grande dame de l'art contemporain. Elle a plein de passions, et ça on le verra un peu tout à l'heure. En tout cas, nous allons découvrir cette charmante dame, Nicole Buc. Comment ça gazouille dans ton monde, Nicole ?
Ben, tout va bien. Je suis heureuse.
Tu es heureuse d'être là, dans ce
oui,
beau studio.
Oui, évidemment.
Tu vois, on a un...
Et je vous ai pas dit bonjour d'abord.
Bah ouais, que ah bah... de Maurieux, que de Maurieux. Et nous avons Thomas derrière l'aquarium qui
bonjour,
va nous
Thomas.
Occuper de tout ça. Tu sais, ici, on est assis au rebord du monde, le rideau s'ouvre, et là, nous allons papoter ensemble. Alors, parle-moi de ta formation, Nicole. C'est quoi ? Comment tu t'es formée à l'art ?
D'abord, très petite, j'avais ce souhait de m'occuper d'art. Et ça s'est déclenché parce que mon père avait dans sa bibliothèque un livre sur Vermeer. Et quand j'ai vu la peinture de Vermeer et ce côté parfait avec la règle d'or tout, partout, j'ai eu envie et j'avais 8 ans. Et donc on m'a dit, écoute, tu fais d'abord ton bac, je l'ai fait péniblement. Et après, je suis rentrée aux Arts Déco.
En fait, c'est une formation d'élite, c'est l'école des arts, c'est quand même une très belle formation.
Tout à fait. En France d'ailleurs, renommée hein, en France. Oui.
Et c'est une école où tu apprends autant la sculpture, la photo, la peinture ?
On peut choisir. Et donc, on a une année de préparation où on fait tout.
En commun,
on apprend
quoi.
À dessiner, à regarder la lumière, les perspectives, etc. Et après, on fait un choix. Et moi, j'avais fait le choix de la sculpture. Et mes parents m'ont dit, mais enfin, quand même, sculpture, c'est un peu dur. Fais la céramique, tu pourras toujours vendre des pots.
Et alors, tu t'orientes vers la peinture.
Oui. Alors, ma peinture, ça a toujours été ma passion.
Ah ouais. Et tu dessines toi-même ? Tu sais peindre ?
Alors, je sais peindre. Je sais dessiner, mais je dessine et je peins de moins en moins parce que c'est très dur de rentrer dans les univers des autres et en même temps préserver son propre univers.
Et après, tu avais un prof prestigieux qu'on connaît tout le monde en Alsace,
oui.
C'est Camille Claus.
Ah oui, mais oui, qui a eu une rétrospective fantastique il y a peu de temps,
ouais,
à Drusenheim.
C'est vrai. Exactement. Que j'ai bien connu, hein, Camille Claus, qui a une peinture un peu pastel comme ça. On peut dire qu'elle est pastel, sa peinture.
Il a eu ses périodes pastel, mais il en a eu plein d'autres. Et moi, je dois avouer qu'il était surtout passionnant du point de vue humain. Et aussi dans l'enseignement très rigoureux. Donc, nous avons appris les grilles colorées. Ça a été très dur hein, pour moi.
Tu l'avais exposé aussi un jour dans ton...
Non, je ne l'ai jamais exposé parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Mais quand j'ai vu sa rétrospective, ça m'a vraiment
émue.
Terriblement.
C'est quelqu'un qui n'est pas très connu en Alsace, hein, je crois, Camille Claus. Plus de l'autre côté du Rhin, je crois.
Oui, non, il était connu en Alsace. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais mis en avant à tout craint. Il a fait son bonhomme de chemin, mais avec beaucoup de rigueur et surtout cet aspect humain et tourné vers les autres était fantastique.
Il avait des toutes petites lunettes rondes comme ça et quelqu'un de très filiforme, grand et mince.
Oui,
tu te souviens de lui ?
Oui, je m'en souviens très bien, oui. Oui, et puis vous regardez dans l'âme.
Ah, c'est beau ça, ouais.
Oui.
C'est comme tu fais dans les peintures, en fait. C'est
oui.
Pareil, tu regardes à l'intérieur de la peinture.
Tout à fait.
Après, tu es parti, après tes études, tu es parti dans la communication, t'as travaillé.
J'ai travaillé dans des entreprises où je me suis occupée de communication, de relations publiques, et ce qui m'a beaucoup aidée au moment où j'ai ouvert ma galerie, d'ailleurs.
Et alors, un beau jour, comme tu parles de galerie, tu as commencé à ouvrir une galerie dans la Frescos. Tu sais ce que c'est que la Frescos ?
Ouais. C'est la rue des Orfèvres.
En fait, on dit Frescos, c'est la rue un petit peu où il y a un magasin après l'autre pour acheter à manger. C'est
ouais,
la Frescos.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, tu avais un appartement, il fallait monter des escaliers comme ça,
oui,
je crois.
Oui, alors volontairement, j'étais la première d'ailleurs à Strasbourg à le faire. J'ai installé ma galerie en étage parce que je voulais que ça soit un lieu de rencontre et pas une vitrine. À l'époque, même le terme de galerie me faisait peur, mais bon, voilà.
Et donc, comme tu dis, tu étais précurseur. Hein. C'est toi qui as ouvert.
J'étais très original, puisque personne ne l'avait fait avant moi.
En France, tu veux dire, dans le pays?
Alors, en Alsace, l'idée de ma galerie, mais en étage, mais à Strasbourg. Mais en France, j'ai quand même ouvert des voies peu particulières. Tournée, par exemple, vers l'illustration. J'étais bien la première.
Mais ta galerie, ce n'était pas un appartement, une boîte à chaussures. C'était certainement grand, non?
120 mètres carrés.
Ah, pas même, pas mal, ouais. Tu pouvais y mettre quoi? 4 tableaux?
Non, j'en mettais entre 30 et 35.
Ah, quand même. Et là, alors là, comment tu as fait à l'époque pour découvrir les grands talents, ces personnes que tu exposais?
Curieusement, j'ai eu un petit ange qui m'a aidée, parce que je suis allée à Paris, je suis allée dans les ateliers les plus prestigieux, qui à l'époque étaient pour moi le Graal. Donc je suis allée voir Lydie Harrix, Velikovitch, je suis allée voir les tout grands, et qui ont tout de suite accepté. Et je leur ai quand même expliqué que j'avais jamais vendu de peinture, et ça ne les a pas dérangés du tout. C'est incroyable.
Mais c'est normal, tu es convaincante. Derrière tes yeux, dès que ça pétille, on a envie de te faire confiance, ça je comprends tout à fait.
C'est vrai que je vends un petit peu mon âme, parce que je vends du rêve, et le rêve, il faut y croire.
Ouais, puis quand on achète un tableau, c'est pour la vie, quoi. Tu ne l'achètes pas pour le revendre le lendemain, quoi. Tu le gardes chez toi parce que tu l'aimes.
Je crois que c'est des vrais compagnons de vie, et c'est important d'en avoir.
Tu gardes des bons souvenirs de la Frescos? C'était tes débuts?
Oh oui, écoute, vraiment des très bons souvenirs. On a fait des fêtes, on a fait des événements extraordinaires avec des jeunes talents, on a fait tellement de choses dans cette rue des Orfèvres, et c'est très beau moment.
Ouais, moi je me souviens, je venais de temps en temps avec ma caméra faire des reportages pour France 3 Alsace, et là je te croisais, on se croisait de temps en temps, on papotait, et puis c'est vrai que c'était très chouette comme appartement, c'était très sympa.
Oui, il y avait ce côté calme, sorti de la rue, où on échange, on parle, chacun fait une petite introspection vers ses goûts, ses envies, ses désirs, son âme.
Et alors, tes peintres n'étaient pas surpris de se dire on monte les escaliers, on est dans un appartement, mais qu'est-ce que c'est que cette galerie?
Curieusement, jamais. Bon, il y avait quand même Beyeler à Bâle qui proposait aussi les plus grands peintres du monde, mais dans une maison avec des petites pièces d'appartement.
Avant qu'il ait sa toute grande salle d'exposition qui ressemble à un piano là dans le jardin.
Oui, oui.
Ah, il avait autre chose.
Il avait dans la ville une maison dédiée à l'art. Et donc, moi, je voulais ressembler évidemment à Beyeler.
Il faut toujours ressembler au plus grand.
Ah, oui.
Moi, c'est pareil. J'avais toujours des rêves dans ma vie, et ce n'étaient pas des petits rêves. Et il faut pousser la porte pour aller au bout de ses rêves.
Hein, absolument.
C'est vrai. Donc voilà, Nicole, on a vu un petit peu la Frescos, la rue des Orfèvres. Maintenant, on va parler d'une de tes grandes passions. Alors, Thomas, mets-nous une petite musiquette là, pour faire réagir. Un joli film, hein, avec Cendrillon et son riche industriel.
Ouais.
Alors pourquoi je te fais réagir sur cette musique? Parce que je me souviens, quand j'ai visité ta nouvelle galerie, on avait tout visité, j'ai vu que tu avais un endroit où tu avais des chaussures, mais des chaussures de toutes les couleurs. T'es jeté les cheveux, comme ça, comme on dit en alsacien. T'es une passionnée de fringues.
Ben oui, c'est une de mes passions, j'adore. Donc, en particulier, les chaussures, les lunettes et les chapeaux. Et les chaussures, évidemment, chez moi, elles sont étalées dans mon dressing, parce qu'elles sont toutes belles, donc je les garde.
Comment tu fais comme Cendrillon? J'ai dit, je vais mettre celle-là aujourd'hui. T'as combien de paires? T'as 200 paires? On va pas le dire, il faut pas. Et t'en as des jolies, hein.
Ouais, elles sont toutes belles.
Mais on arrive à marcher avec des jetés le cheveux comme ça?
Il y a.
Mais
on peut le faire.
Tu te fais pas d'entorse?
Eh ben non, je me débrouille.
Tu te débrouilles?
Je pose un pied devant l'autre, tac, tac, tac. Non, je me débrouille bien.
Hein. Ouais, c'est joli ça. Et après, tu aimes aussi t'habiller, hein. Je sais que matin, tu es venue avec une tenue magnifique, là.
Les vêtements, les tenues, j'adore.
Et tu te sépares jamais de tes vêtements?
Alors écoute, j'ai gardé la même silhouette depuis,
bah oui, c'est vrai,
depuis 30, 40 ans, donc j'ai pas de raison de jeter.
Mais ça, on parlera bien plus tard, c'est parce que t'es sportive. Mais je sais que moi, c'est pareil, j'ai des armoires avec beaucoup d'habits parce que j'aime bien les mettre et j'aime pas les donner.
Je vois.
Tu le sais, ça, j'aime pas donner mes habits avec lesquels j'ai une histoire, tu vois.
Oui, moi, toi, c'est pareil. Moi, c'est pareil, j'y tiens, j'ai comme à la prunelle de mes yeux.
Et puis après, il faut avoir le look quand même quand tu veux vendre.
Mais oui, puis c'est pour mon plaisir à moi. Le matin, je me sens en forme quand je me suis bien, je me suis habillée jolie.
Ouais, parce que tu peux pas te mettre en bleu de chauffe si tu veux vendre un tableau qui coûte un peu d'argent.
Alors il y en a qui le font, mais moi je trouve que dans quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, on peut pas être moche.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et puis alors, mon cher Thomas, dans ton aquarium, mets-nous une petite musiquette pour réagir sur son sport favori, pour reposer les oreilles un peu. Tu as reconnu, hein, tu as reconnu, c'est les Stones qui chantent Le Cheval, Horses.
Oui.
Tu la connais, cette musique?
Oui, mais
alors
magnifique.
C'est pour t'emmener sur ta passion, les chevaux. Raconte-nous un peu tes passions de chevaux. C'est très féminin, ça, quand on est petite fille, on aime les poneys, les chevaux. Raconte-moi un peu tout ça.
C'est une grande histoire, parce qu'elle a commencé petite, avec des chevaux de ferme. Et puis, et après, des chevaux de course.
Tu veux dire des chevaux de ferme, des chevaux de labour, tu veux dire?
Oui, quand j'étais toute petite, je glissais avec le foin, et puis je tombais dans leur atelier où mangeaient les chevaux. Et alors, je voyais ces grandes bouches, j'adorais ça, j'avais 4 ans.
Waouh, c'est génial.
Et puis, après, il ne s'est rien passé. Et puis, vers l'âge de 12-13 ans, mon père avait une calèche, donc il a acheté des chevaux. Et puis, petit à petit, on a eu des chevaux. Et puis, j'ai fait un peu de course. Et puis, j'ai dû abandonner l'équitation parce que la vie, bon, les chevaux, il faut s'en occuper tous les jours.
Ouais.
Donc, je n'ai pas pu. Et puis, 30 ans après, j'ai repris l'équitation et j'ai appris le saut d'obstacle.
Mais alors, c'est hyper compliqué, ça. C'est vachement
l'adrénaline saut d'obstacle, j'adore et je continue.
Mais ça veut dire quoi? Tu as des chevaux qui t'appartiennent?
Oui, alors j'ai des chevaux et je monte toujours en compétition. Donc, j'ai quelques chevaux et on part avec mes moniteurs et autres. On va souvent en concours international et donc on va beaucoup en Italie.
Parce que tu as le niveau international?
Amateur.
Ouais, mais quand même.
Amateur. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait résonner la Marseillaise avec Tarantino.
Waouh, c'est pas vrai.
Mais si, mes chevaux. Moi, j'en ai un qui s'appelle Coltrane et l'autre Tarantino.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Et c'est un pur sang?
Non, sont des chevaux très, très charpentés parce que pour le saut d'obstacle, c'est...
Il faut de la force, quoi.
Ouais, il faut de la force. Moi, j'aime les chevaux grands en plus. Donc, sont d'autres types de chevaux. Mais affectivement, le cheval, c'est quelque chose de fantastique.
C'est un compagnon de vie, quoi.
Ben oui, c'est ce truc de l'écart. Caresser, de les toucher, de les renifler. Enfin, c'est quelque chose de très important.
Ils te connaissent? C'est fidèle comme un âne?
Oui, au moins.
Ils savent quand tu arrives.
Oui, et puis bon, ils sont très délicats dans la perception de comment tu es. Et donc, pour réussir un concours de saut d'obstacle, il faut être vraiment en phase avec son cheval. Hein. Et il faut que lui-même ait envie de faire quelque chose pour toi.
Et des fois, ils n'ont pas envie?
Parfois, ça se propose mal. Et puis, bon, il y a des jours, comme tous les sportifs, où on est en forme, et puis d'autres où on est super, quoi.
Ce sont des athlètes, tu veux dire, tes chevaux?
Oui, évidemment, ils sont sortis tous les jours.
Et donc, tu t'en occupes quasiment tous les jours?
J'essaye. Ouais.
Mais tu les as parqués où?
Ils sont en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, parce que j'ai trouvé de belles écuries avec Box Paddock, ils sont bien soignés. Donc...
Et alors, quand tu parles de saut d'obstacle, il y a une hauteur où tu es limité. Quelle hauteur tu sautes?
Alors, écoute, moi, je saute des petites hauteurs parce que ça se passe jusqu'à 1m25.
Ah, c'est pas rien, quand même.
Mais, ouais, disons, pour les amateurs, ouais, c'est honorable. Et surtout, quand la difficulté aussi, c'est d'aller dans des compétitions où le monde entier se réunit.
Ouais, ouais.
Et donc, là, il faut être bon. Quoi.
Mais ça veut dire
parce que c'est chronométré.
C'est chronométré.
Il ne faut pas faire de faute, mais c'est chronométré.
Bien sûr.
Donc,
Et après, tu emmènes tes chevaux d'Allemagne, tu les emmènes dans le van et tu pars en voyage. Et ils le supportent, ça?
Oui, comme nous. Quoi.
Tu leur donnes une petite pilule, non? Pour se calmer, non?
Non, ils sont calés dans le camion et ils ne bougent pas.
Ah ouais. Et donc, effectivement, tu as d'autres passions que le sport et les habits? Tu as encore autre chose?
Moi, j'ai la lecture aussi qui m'accompagne beaucoup.
Et ouais, tu aimes lire.
Je trouve que la lecture, c'est une très belle évasion aussi de chaque jour. Donc, chaque soir, avant de dormir, je me fais quelques chapitres de quelque chose que j'aime. J'ai un tas de livres à côté de mon lit.
Ouais, mais aussi, on a tous des passions de littérature, c'est vrai. Ouais. Et après, un beau jour, tu es parti, tu as quitté la ville pour aller dans la verdure à la campagne.
Ouais.
Raconte-moi, tu es allée où alors?
Alors, je suis allée retrouver mes ancêtres dans un corps de ferme qui est situé à Urtikheim, donc très peu loin de Strasbourg, 10 minutes le samedi et le dimanche de la ville. Et parce que, comme j'en ai hérité, en même temps, ce corps de ferme, où il y a toujours un train agricole, mais qui se passe de l'extérieur, les machines arrivent et puis elles repartent, mais elles n'ont plus besoin d'un corps de ferme. Donc, les bâtiments faisaient un peu la gueule, triste mine. Et puis, je me disais, mais c'est quand même dommage, moi qui adore la sculpture, et puis, pourquoi je ne mettrais pas ma galerie à la campagne, d'autant qu'à la ville, pour se garer.
Ouais. Oui,
bon,
c'est ça. Ouais.
Difficile.
Écoute, Nicole, on va peut-être mettre une petite musiquette. Est-ce qu'on peut mettre John Carbarek pour se reposer un peu les oreilles avant de parler de la campagne, de la verdure, des petits oiseaux? C'est une musique qui va bien avec la campagne, la sérénité. Et donc toi, tu as voyagé à la campagne où tu as les petits oiseaux, tu as une belle ferme dans le Korsberg. Ça, c'est donc de tes aïeux?
Oui, c'est un corps de ferme assez immense, à cour carré. Donc, il n'y a pas loin la voie romaine, donc l'atrium est là. Et qui est particulièrement harmonieux parce que tous les bâtiments ont été reconstitués vers 1840. Donc, il y a une très belle harmonie. Ça n'a pas été retouché. Donc, c'est assez fantastique.
Pour moi, c'est un des plus beaux corps de ferme de tout Korsberg. Moi, j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est vraiment magnifique. C'est grand, c'est immense. Et donc, tu as eu cette idée de mettre ta galerie dans cette belle ferme, dans ce beau bâtiment où tes parents ont habité, quoi, où tu as grandi en fait.
Non, pas exactement, mais où mon grand-père était présent, c'est sûr. Mais en tout cas, ce corps de ferme, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, était très important. Donc, j'ai essayé de lui redonner de nouveau sa beauté et puis lui donner une fonction. Parce que un bâtiment qui n'a plus de fonction, quelque part, il meurt un peu dans son âme aussi.
Ouais. Et là, tu l'as fait revivre, tu as fait venir des architectes, tu as fait une très magnifique salle pour exposer, pas que, mais dans toute cette maison, dans les toilettes même, et jusque dans la salle de bain, dans les corridors,
oui,
on peut
alors,
visiter, oui, on peut voir tes tableaux.
Oui, alors la galerie est dans le bas de la maison, et puis moi j'habite au-dessus.
À l'étage.
Donc, mes amis acheteurs, très souvent, pour les convaincre, je leur montre un petit peu ce qui se passe chez moi. Donc, c'est comme ça que tu as découvert mes chaussures.
Et après, tu as les écuries, les dépendances. Et là oui. aussi, tu en as fait des. Là aussi, on peut découvrir des tableaux.
Oui, alors, je me suis dit, mais dans le fond, ça doit être une vraie promenade dans cet immense corps de ferme où il y a quand même 3000 mètres carrés construits.
Incroyable.
Donc, c'est énorme. Je me suis dit, mais les gens, il faut qu'ils se promènent, qu'ils restent, qu'ils parlent entre eux, qu'ils s'installent, qu'ils boivent un pot. Enfin, que ça soit vraiment convivial parce qu'on ne bouge pas ailleurs pour rien, quoi.
Et donc, tu arrives à attirer toute ta clientèle, tes passionnés d'art, ils viennent tous à Urticaille
oui.
maintenant,
alors,
pour les vernissages, pour acheter des tableaux.
Oui, alors j'ouvre surtout le samedi et le dimanche, je suis toujours là, et parce que c'est là où on a envie de prendre l'air, où on a envie de changer d'environnement, donc c'est un très beau moment dans ce corps de ferme, et merci mes ancêtres, hein. C'est
ouais,
une très
belle
beau. Histoire. Alors c'est une vraie histoire, parce que j'ai l'histoire de la ferme à partir de 1650.
Wow.
Et
wow.
Plus tard, au moment, il y a Michelet qui était devenu un familier, parce que mes ancêtres se sont passionnés pour la Révolution française.
Ah ouais.
Donc, et l'histoire, oui, la France. Et donc, Michelet venait souvent et il a écrit un livre sur la femme où il décrit une de mes ancêtres comme étant l'exemple de la femme moderne. Ça veut dire que le jour où elle se passionnait pour l'agriculture et comme fille de famille, elle sortait sans se couvrir les bras. Et le soir, elle jouait Mozart,
wow.
Wagner, elle lisait Chateaubriand et Goethe.
Ah ouais,
donc il y avait ce côté de part et d'autre du Rhin, déjà, que je défends d'ailleurs maintenant.
Bien sûr, tu as bien raison.
En tant que galeriste. Ouais. Donc c'est des belles histoires, hein.
Non mais c'est chouette ça, effectivement. Et alors, quand tu, par exemple, les week-ends, donc c'est bondé, que disent les gens quand ils voient cette belle cour, cette cour carrée où il y a des sculptures partout et des œuvres d'art sous le Schöpfel là où tu exposes?
Ben, ils sont assez étonnés.
Impressionnés.
Ils sont assez impressionnés et en même temps, ils découvrent ce que ça veut dire l'Alsace. Hein. C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire.
Ouais, ouais.
Et là, les gens donc viennent acheter des tableaux. C'est bientôt Noël, donc ils
oui.
viennent se faire des petits cadeaux.
Oui, alors je pense qu'un petit cadeau genre peinture ou petite sculpture ou grande, hein. C'est bienvenu puisque c'est très personnel, c'est que des artistes très choisis depuis, quand même c'est 35 ans et puis ma réputation s'est posée sur des bons choix quand même.
Ah, mais les gens te connaissent, ouais.
Mais il faut savoir que les œuvres d'art, c'est pas plus cher qu'un autre cadeau, il faut surtout, chez moi, il y a des petits originaux à partir de 200, 300, 400 euros, donc c'est pas...
Des petits prix, quoi.
Et alors, ouais. Mais évidemment, quand on a un petit pécule plus dodu, on peut se permettre d'acquérir des œuvres plus importantes.
Oui, c'est aussi un investissement, oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr.
Ouais. Et après, c'est vrai, on l'a pour longtemps, ce tableau. Et
oui,
voilà.
Oui, d'autant que ce que je propose... Alors, je me suis donné comme règle que chaque œuvre que je montre dans ma galerie, c'est une œuvre que j'aurais souhaité acquérir.
Acquérir, parce que...
Donc ça, c'est une bonne règle.
Parce que tu as le coup de foudre, il faut avoir le coup de foudre.
Oui,
quand
et puis, ouais. Il faut que... Il n'y a pas que le coup de foudre, il n'y a pas que la séduction,
ouais,
il y a aussi...
Ouais.
C'est très souvent... ce sont des œuvres de sens. Donc, derrière, il y a beaucoup plus de choses encore que simplement des problèmes esthétiques qui sont
traités. Qui c'est que tu exposes en ce moment jusqu'en janvier c'est...
Alors, c'est deux artistes très intimistes. Il y a Dan Stefan et Mitsuo Shiraishi. Et pourquoi les avoir réunis parce que dans la perception du silence, dans la représentation de la lumière et dans la délicatesse des couleurs, c'est vraiment, ils ont quelque chose de complémentaire et ils se parlent énormément.
C'est génial quand les tableaux se parlent, surtout le soir quand tout est éteint. J'ai l'impression que tous ces personnages se promènent chez toi, dans ta belle maison, dans ta belle demeure. En tout cas, Nicole, merci beaucoup d'être venue au micro de Radio Judaïka. Ça m'a fait plaisir.
Mais ce fut un plaisir partagé.
Mais oui, j'étais très contente de t'avoir à côté de moi. Là, c'était très sympa. Thomas, mets-nous le petit générique de fin. À bientôt. Passe un joyeux Noël.
Oui, joyeux Noël à tous. Ouais. Joyeux Noël à toi, à ta famille.
Merci.
Et à bientôt.
Et avec plaisir, Nicole.
À bientôt.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. Voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini. Voilà. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue. Même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini.